Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Jusque-là, elles ont écouté les enquêteurs, subi les provocations de Salah Abdeslam. Les victimes du 13 novembre vont enfin pouvoir prendre la parole. Les témoignages des parties civiles débutent aujourd'hui au procès des attentats. Rencontre avec un blessé grave du Stade de France. Il sera à la barre cet après-midi. Des patrons de PME pas vraiment convaincus après les annonces gouvernementales sur la formation des salariés et des chômeurs. Reportage à suivre dans une entreprise près de Blois. Dans ce journal aussi, les tensions croissantes entre la France et le Mali, un concours d'éloquence contre la violence et le Bocuse d'or remporté par un chef lyonnais.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui l'auteur, interprète, metteuse en scène Zavou Breitman pour le spectacle Dorothy au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Ils seront plusieurs centaines, Alexis, à s'avancer à la barre pendant 5 semaines.
Rescapés des attentats ou proches de victimes. Après les enquêteurs, c'est au tour des parties civiles de témoigner au procès du 13 novembre 2015. La cour d'assises spéciale a prévu d'en entendre une quinzaine chaque jour jusqu'à fin octobre. Ça commence donc cet après-midi par les victimes du Stade de France, comme Walid Youssef, un Égyptien de 33 ans, grièvement blessé ce soir-là. Charlotte Pirel a rencontré.
Walid vit à Alexandrie en Égypte, mais ces 6 dernières années, il a passé plus de temps en France que dans son pays. 2 ans et demi sans quitter l'hôpital tout d'abord, puis de nombreux allers-retours pour continuer à se faire soigner.
Je souffre toujours au niveau de l'estomac, dans ma jambe droite, et il y a ce bruit que j'entends en permanence. Je l'entends en ce moment. Ça me rappelle tout ce qui s'est passé, ça me cause des flashbacks, des cauchemars. Je suis incapable d'avoir le même mode de vie qu'avant ces attaques.
Car le 13 novembre 2015, lorsque Walid arrive au Stade de France, le match a déjà commencé et soudain, porte H, c'est l'explosion du deuxième kamikaze à 5-10 mètres de lui maximum. C'est entre autres ce qu'il s'apprête à raconter cet après-midi devant la cour.
La plupart du temps, j'essaie d'éviter de penser à ces minutes très difficiles, mais je me souviens très clairement ce qu'il s'est passé. Je suis resté conscient pendant 5 à 10 minutes après l'explosion. Je suis très anxieux et stressé depuis longtemps à propos de ce témoignage, mais je suis déterminé à le faire bien et à prendre ma part dans ce procès.
Et pour ce jeune musulman, à peine 1 an plus âgé que le principal accusé, ce sera aussi l'occasion de rappeler à Salah Abdeslam que l'islam, dit-il, est on ne peut plus éloigné de ses actes terroristes.
Charlotte Pirel, les témoignages des victimes jusqu'à fin octobre, donc dans un premier temps en tout cas, car une deuxième partie d'audition de partie civile est prévue au printemps dans ce procès fleuve du 13 novembre 2015. Les psychologues appelés à manifester aujourd'hui à Paris au deuxième jour des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Emmanuel Macron doit y faire des annonces en clôture cet après-midi. Le secteur réclame un vrai plan d'urgence face à la hausse du nombre de patients suivis, plus 40% en 10 ans. Les stocks au plus bas dans les réserves de l'établissement français du sang. Le niveau atteint est dangereusement critique selon l'organisme. Il y a actuellement 77 000 poches de globules rouges disponibles. Il en faut au moins 100 000 en permanence pour être serein. C'est du jamais vu pour le FS qui appelle donc à une mobilisation massive et urgente durant les 3 prochaines semaines. Pour l'occasion, tous les donneurs seront accueillis dans les centres, même sans rendez-vous.
Il est 7h34, le plan formation du gouvernement permettra-t-il vraiment de lutter contre la crise des recrutements?
1,4 milliard d'euros mis sur la table hier par Jean Castex pour former salariés et chômeurs de longue durée au sein même des entreprises, avec notamment ces aides de 8000 euros pour signer des contrats de professionnalisation. Mais sur le terrain, on est pour l'instant dubitatif, comme vous l'avez constaté, Laurent Kramer, dans cette PME d'Indre-et-Loire.
Dans cette entreprise d'usinage et de pièces mécaniques, à quelques kilomètres de Blois, Mathieu Coninger, responsable de la production de l'entreprise, a déjà expérimenté tous les dispositifs de formation censés permettre de recruter.
Former en entreprise, c'est une excellente initiative. Ça fait 10 ans qu'on essaye de recruter des gens compétents. Néanmoins, ça demande énormément de temps, d'énergie. Ça demande aussi de mettre une personne à disposition pour former cet apprenant. Donc ça demande énormément d'investissement et malheureusement, les résultats ne sont pas toujours là à la fin.
L'entreprise entreprise familiale qui compte 15 salariés dresse un constat amer. Malgré les efforts déployés par chacun, 90% des candidats formés ne restent pas en poste à l'issue de la formation. Alors promettre 8000 euros pour un contrat de professionnalisation, estime le cadre de l'entreprise, n'augmentera pas l'efficacité des formations.
C'est pas la solution qui va apporter une réponse à notre problème à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est pas avec juste des aides financières qu'on va résoudre le problème. Si c'était qu'une question d'argent, ça ferait longtemps qu'on aurait investi de l'argent dans les formations. Le problème à l'heure actuelle, c'est la qualité des formations. On vient mettre un bout de pansement sur un problème qui est bien plus important que ça. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout.
Cette PME recrute donc aujourd'hui ses tourneurs-fraiseurs uniquement en interne après avoir formé ses propres salariés venus d'autres métiers pendant près d'une année.
Laurent Kramer, service économie et sociale d'Inter. Ils ont le choix entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Les 122 000 électeurs inscrits pour la primaire des écologistes n'ont plus qu'une journée, une petite journée pour se décider. Les résultats du second tour seront rendus publics à 17h30. On va revenir sur tous les enjeux de cette primaire et de ce résultat dans le journal de 8h. C'était le week-end dernier, Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le premier ministre malien est à la tribune. Il s'en prend alors à la France, l'accusant d'abandonner son pays en plein vol en réduisant bientôt sa présence militaire sur place. C'est d'ailleurs comme cela que Bamako justifie aussi les discussions entamées avec une société paramilitaire russe. Des propos qui ne passent pas, mais alors pas du tout à Paris. Inacceptable pour le gouvernement français qui rappelle que plusieurs milliers de soldats vont rester sur place. Benjamin Hilly.
C'est beaucoup d'hypocrisie, c'est beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'indécence. L'indignation de Florence Parly hier lors d'une conférence devant des étudiants de Sciences Po Paris, l'indécence selon la ministre des Armées car le premier ministre malien a évoqué l'abandon en plein vol de la France au lendemain du décès d'un 52e soldat français mobilisé au Sahel. Il n'y a pas de désengagement, a martelé Florence Parly. Même son de cloche au Quai d'Orsay, ni départ du Mali, ni décision unilatérale selon la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Elle affirme que des consultations ont été menées avec les autorités sahéliennes et maliennes depuis le sommet de Pau en janvier 2020. Confirmation au niveau militaire.
Des discussions sont en cours avec les autorités militaires maliennes depuis de nombreux mois, depuis presque un an et demi.
Le colonel Pascal Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées.
Il ne s'agit pas d'un abandon. La force Barkhane va transférer 3 emprises du Nord Mali. Les emprises de Tessalit, Kidal et Tombouctou avant la fin de l'année, elles vont être transférées soit à la MINUSMA, soit aux forces armées maliennes. Deuxième point, la force Barkhane va rester présente au Mali, notamment à Gao, Menaka et Gossi.
Pas d'abandon, selon les autorités françaises, mais une réduction des effectifs mobilisés au Sahel d'ici à 2023, 2500 à 3000 soldats contre plus de 5000 actuellement.
Au Royaume-Uni, nouvelle étape dans la crise des carburants. Le gouvernement demande maintenant à l'armée de se tenir prête à se déployer si nécessaire pour assurer l'approvisionnement. De nombreuses stations-service sont à sec, notamment car les automobilistes paniqués se sont rués à la pompe ces dernières heures, craignant justement une pénurie en raison du manque de chauffeurs routiers. L'église catholique en pleine repentance au Canada, c'est le scandale des pensionnats autochtones. 150 000 enfants amérindiens, inuits, métis, en relais de force dans une centaine d'établissements tout au long du XXe siècle. Cet été, des milliers de tombes ont été découvertes près de pensionnats catholiques. Alors après avoir présenté ses excuses, l'Église s'engage maintenant à verser 30 millions de dollars, soit un peu plus de 20 millions d'euros, pour soutenir des programmes en faveur des survivants.
7h38 en France, Alexis, un concours d'éloquence pour en finir avec la violence.
C'est le pari qu'on fait dans l'Essonne, où depuis le début de l'année, 3 jeunes sont morts dans des rixes entre bandes rivales. Le département et des associations ont donc monter ce concours destiné à des habitants de certains quartiers qui s'affrontent régulièrement. La finale avait lieu hier soir en présence de Delphine Evenou pour Inter. Reportage.
Ils viennent des Tarterets à Corbeil-Essonne, des Pyramides à Évry-Courcouronnes ou de la Grande Borne à Grigny. Une quinzaine de jeunes au pupitre intimidant de l'Assemblée du département. Le verbe hésitant, parfois assuré le plus souvent. Il raconte les larmes des parents, l'absurdité des violences. Les traumatismes aussi. Pour Lassana, c'est un homme poignardé devant lui il y a quelques mois.
Ça m'a fait un électrochoc parce que à ce moment-là, j'ai compris que les embrouilles de quartier, que ça ne servait à rien. J'ai déjà participé. Aujourd'hui, j'en suis pas fier. Ça part d'un petit truc en fait. Après, ça devient une grosse histoire. On voit quelqu'un dans le coma, une famille derrière qui pleure et tout.
Manon, elle est venue défendre l'image des quartiers.
Les rixes, en fait, c'est quelque chose de négatif, certes, mais ça résume pas forcément nos quotidiens. Dans nos quartiers, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide.
Comme pour cette finale, où chacun s'encourage et s'écoute. Pari réussi pour Ismaël Mbaye, président de l'association Expression de France à l'origine du projet.
Le côté éducatif préventif fonctionne énormément. On les met devant leurs responsabilités. Ils se sont rendus compte qu'ils se ressemblent dans toute cette guerre. Maintenant, ils se retrouvent tous ensemble, mais dans un côté festif, pacifique.
Hormis la quinzaine de finalistes, près de 300 jeunes ont participé aux ateliers d'éloquence cet été.
Reportage Delphine Evenou à Évry. Pendant ce temps, à Lyon, hier soir, les meilleurs cuisiniers du monde s'affrontaient eux en finale du Bocuse d'Or, le concours international de gastronomie. Et après 8 ans d'échecs, le trophée revient enfin à la France grâce au chef lyonnais David Tissot, très ému après sa prestation.
Ça a été un voyage de 20 ans pour en arriver là aujourd'hui et c'est énorme. La Coupe du Monde de la cuisine. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Et puis moi, en tant que Lyonnais, ma première maison, c'était chez Monsieur Paul. Je suis très heureux et très fier. Merci Monsieur Paul.
Entrée, plat, dessert, vous pouvez nous décrire ce que vous avez fait ?
Le thème, c'était à emporter autour de la tomate. On s'est amusé à travailler le quartier de tomates qu'on a reconstitué avec une fermentation d'autres tomates.